Vous écoutez Radio Panique.
Bonjour chers amis auditeurs de Radio Panique, comme toujours c'est Anna qui vous parle et bienvenue pour cette émission mensuelle Le Chariot, émission consacrée au monde du tarot, ses histoires et anecdotes. Aujourd'hui, une émission spéciale, l'entretien que nous a accordé avec beaucoup de générosité le tarologue monsieur Mathieu Lelarge. Comme vous allez l'entendre, l'argumentation développée par ce grand connaisseur du tarot est une ouverture et un enrichissement que je souhaite vous faire partager durant cette émission. Je vous propose donc, mes bien chers amis, l'écoute de cette interview particulièrement intéressante en ouverture de savoir à partager. Mathieu, tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Peux-tu d'entrée de jeu nous expliquer tout simplement comment t'est venue l'envie de te consacrer à la tarologie?
Alors c'est une très belle question que tu me poses là, parce que l'envie, elle n'a pas été là tout de suite, et j'ai même envie de te dire que c'était une contre-envie au départ. J'ai rencontré le tarot en lisant un texte qui s'appelle « La danse de la réalité » d'Alejandro Jodorowsky, dans lequel il parle de son parcours. Moi, je viens du milieu du théâtre, et le tarot, je le voyais passer, mais j'en connaissais surtout une dimension qui était de lire l'avenir. Et ça, c'est quelque chose qui me plaisait pas trop, parce que je me disais « mais elle est où ma part, à moi, mes choix ?» d'humain. C'était la part de l'ego d'une certaine manière, et en même temps je sentais qu'il y avait autre chose, qu'il y avait une tension entre les deux. Et puis en lisant la proposition de Jodorowsky, qui est un tarot humaniste, qui est celui qui nous met face à nous-mêmes, et bien là, en 2004, ça a été une révélation. Et donc, après avoir lu ce livre, je suis allé acheter mon premier jeu de tarot, et La Voix du Tarot, qui est un livre qui te permet de commencer à pratiquer le tarot, et j'ai commencé à m'amuser avec.
Pour toi, peut-on dire que le don naturel d'une personne, ça veut dire un talent ou une qualité innée, sont obligatoires pour devenir tarologue et au cas où ta réponse soit positive, quels seraient ces dons?
Alors, on en parlait tout à l'heure hors micro et ce que je te disais, c'était que les dons pour moi, on en a tous, puisque nous sommes des êtres issus d'une création. On peut partir sur cette idée-là. Imaginez cela et le prendre comme vérité pour nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on y risque? Je pense pour moi rien. On risque rien, se dire que on est des êtres créatifs. On est d'ailleurs issus d'une création. S'il n'y avait pas eu une création, une procréation, nous ne serions pas là. Et si l'univers n'avait pas créé, nous ne serions pas là. Et puis la science, elle nous dit que nous sommes faits de poussière d'étoiles. Donc, ça veut dire que nous sommes reliés à l'univers. Si ce n'est pas le plus grand créateur de tous, quel que soit le nom qu'on lui donne, eh bien ça veut dire qu'on a tous les dons. Par contre, est-ce qu'on va tous les développer? Est-ce que c'est le lot d'une vie? Ça, je ne sais pas. Je pense que, voilà, il y a déjà peut-être des choses importantes à développer. Et donc, à partir de ce moment-là où tu commences à te connecter, si ça te parle, si ça te fait vibrer le tarot, alors c'est que c'est pour toi. Tu peux peut-être aller aussi dans d'autres pratiques. Ça peut être le tao, ça peut être la musique. Ce n'est pas une obligation, jamais. C'est un jeu. Et donc, si tu as envie de jouer et que ça te parle et que tu te dis « pour moi, je vois la vie comme un jeu, comme quand j'étais enfant, mais avec mon regard d'adulte », eh bien, tu peux aller pour moi. C'est un prérequis. Tu me demandais dans la question quels seraient les prérequis. Pour moi, ce serait peut-être celui-là. Est-ce que j'ai envie de jouer? Est-ce que ça m'amuse? Et en même temps, de prendre conscience. Parce qu'aussi, c'est une fois que tu vas mettre le doigt dans l'engrenage, tu ne reviens plus en arrière. Parce que tu entres dans la connaissance, dans la conscience. Et à partir de ce moment-là, eh bien, ça lève le voile sur certaines choses, sur tout. Au final, tu vas enlever les couches de l'oignon et donc tu ne peux plus revenir en arrière. Donc c'est ça le choix, en fait. Le premier choix qui va se poser à toi, c'est est-ce que j'entre dedans? Mais je n'en ressortirai pas de la même manière. Ce ne sera plus possible. Et donc c'est ça la première question pour moi à se poser avant d'aller vers le tarot et sentir si ça vibre dans notre cœur.
C'est super. Et je voudrais te demander, il y a actuellement beaucoup de psychologues qui utilisent le tarot en tant que thérapie, et dont leur aide personnelle. Est-ce que vous êtes d'accord que le tarot soit un outil pour les psychologues actuels?
Alors, je trouve ça fabuleux que le tarot s'invite partout, et même avec les psychologues. Après, la question est toujours, non pas de l'outil, parce que le tarot est un outil, c'est un outil sacré. Par contre, ça, effectivement, c'est aussi une chose, c'est un outil sacré. C'est une voie dans laquelle on entre, il faut s'y dédier, il faut s'y consacrer. Il y a bien une sacralité dedans. Et donc une réceptivité, hein. Con, c'est le con, c'est vraiment on revient au sexe féminin, c'est-à-dire que ça nous appelle à notre réceptivité, et donc éviter de plaquer dessus des choses préétablies. Il y a une grille de lecture, bien sûr, mais cette grille de lecture, elle est vivante. Et donc si je viens avec ma grille de lecture que ça doit être comme ça, parce qu'il y a ça qui est tiré, et ça doit être absolument comme ça, et j'ai la vérité, alors là, on passe à côté de la dimension poétique du tarot. Et c'est ça où je pourrais mettre un bémol. C'est-à-dire, attention, prendre garde, garder cette petite lumière allumée de se dire, ok, j'ai cette grille de lecture qui est magnifique, qui est la psychologie. Je vais entrer et je vais inviter le tarot. Eh bien, alors, je vais aller à la rencontre de choses que je ne connais pas, qui sont peut-être en dehors ou qui vont m'amener plus loin que, effectivement, ce que m'amenait la dimension et la connaissance de la psychologie, qui va déjà très loin en elle-même. Hein. Mais ça rejoint Jung, ça rejoint le travail de Jung, hein, c'est l'inconscient collectif. Parce qu'en même temps, ben, en l'invitant, de toute façon, il y aura des choses qui vont se passer, qui vont être dans le non-dit. Parce que l'image parle d'elle-même, elle va venir parler à l'être au-delà des mots. Et puis, ce sont des portes qu'on ouvre. Et il y a une énergie dans ces portes. Alors, pour acquérir la connaissance du tarot, elle est là, elle vient se révéler. Donc c'est aussi entrer dans une humilité. Et c'est ça où tu vas retrouver dans l'histoire du tarot aussi, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui vont venir marquer de leur nom, un peu comme un animal qui pisserait pour faire marquer son territoire, parce que des fois c'était aussi son chemin, il l'a aussi accepté. Le tarot il prend tout, il est le tout, comme nous le sommes, et c'est notre miroir. Donc c'est pas grave, ça fait partie de son histoire, ça l'a enrichi, on pourrait se dire que ça a peut-être desservi à un moment donné, et puis, ben c'est dans le temps que les choses se font. Donc, cette acquisition, si tu veux, elle peut se faire à quelques moments que ce soit. Mais ça ira toujours plus loin et au-delà de nous. C'est pas pour rien que ça s'appelle des lames, les cartes du tarot. C'est que ça vient trancher aussi. Mais c'est la lame. Donc, c'est aussi l'âme qui est derrière. L'âme de la personne, la nôtre, celle du jeu de cartes en lui-même. Donc, c'est une communication. Donc, il y a ce qu'on est ici et maintenant, et puis ce vers quoi ça nous guide, parce que c'est toujours nous qui ferons le choix.
Et Mathieu, cette profession que je vois te passionne, peut-elle réellement apparaître rémunératrice d'un point de vue professionnel ?
Alors, au niveau pratique, ça peut devenir un outil avec lequel tu peux travailler professionnellement et être un professionnel du tarot. Là où il faut toujours garder distance, c'est éviter de devenir dépendant de ton art. Et donc, c'est trouver qu'est-ce qui va être juste pour que cet argent, cette rémunération, l'argent c'est l'art des gens, donc on va te remercier de ton art. Donc si ton art est le vivant, le tarot, eh bien à partir de ce moment-là, tu vas le proposer et puis tu vas être rémunéré. Mais c'est un échange d'énergie. Et donc, ben, oui, il se concrétise dans la matière, parce que nous sommes ici pour venir traverser la matière, sinon on serait resté des âmes. Donc, ce que j'amène comme matière qui, elle, est invisible, vient prendre incarnation, si je peux dire ça comme ça, par ce remerciement qui se fait avec l'argent. Mais le faire à temps plein, ça peut être sur un temps, mais le faire toute sa vie, ça veut dire que tu deviens dépendant, dépendante de tes clients. Et donc, ça devient très compliqué, mais pas impossible, parce que l'impossible n'existe pas dans le vivant, mais pas impossible, d'être suffisamment dans l'ouverture pour garder ce champ libre. Tu vois, cette respiration qui laisse l'espace vide pour recevoir. Si tu commences à avoir besoin d'argent, alors tu vas tout resserrer comme ça, et tu vas être comme ça, et tu vas devoir, et donc tu vas monter tes prix, et tu vas avoir de moins en moins de personnes ou des gens. Mais où est-ce que tu trouves la détente? Parce que pour moi, la lecture de tarot, c'est vraiment être comme un félin prêt à l'attaque. Ou prêt au jeu, justement. C'est-à-dire que c'est détendu et en même temps présent, là, dans une sorte de tension. Et si tu commences à être tendu et uniquement tendu, parce que tu as besoin d'argent, ça devient de plus en plus difficile d'être juste avec la personne qui est en face de toi.
Disons que ces personnes que nous connaissons, quelques-unes évidemment, qui travaillent à temps plein et qui du coup prennent une lame et c'est presque mémoriser les mots qu'elles disent à chacun, devient un peu machinal et n'est plus dans le simple, il n'est plus dans une lecture vivante. Ça que tu veux dire ?
Oui, c'est-à-dire qu'en effet, tu commences à être dans de l'automatisme. Et donc, tu en oublies que tu as ta base, mais tu n'arrives plus à improviser. Hein, je te disais que je viens du théâtre. Moi, j'ai beaucoup développé l'art du travail avec le jeu masqué. Et le jeu masqué, notamment, c'est la commedia dell'arte. Je suis pas un spécialiste de la commedia, mais inspiré de la commedia. Et c'est quoi ? C'est une base d'improvisation. Tu vas créer une structure et à partir de là, tu as des personnages qui sont bien définis, comme tes cartes du tarot. Et puis, hop, tout le monde va se mettre ensemble et l'histoire va démarrer. Tu sais d'où tu pars, tu as un point au milieu et puis une fin. Et puis tout ce qui va se passer au milieu, ben, ça va être avec les différents personnages. Mais pour moi, le tarot, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est cette base-là que tu as apprise. Parce qu'il y a une énergie, il y a une carte, il y a un nom à une carte, il y a un numéro. Donc ça, c'est là. Mais après, la personne qui est en face de toi, eh bien, elle vient te raconter sa vie aussi. C'est un échange. Et donc, comment est-ce que le tarot va venir raconter sa vie ? Comment est-ce qu'il vient raconter l'histoire de cette personne ? Qu'est-ce qu'il vient mettre en lumière ? Parce que des fois, ça vient mettre en lumière des choses qui sont issues des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, des choses qu'on ne savait pas. Et donc, si on n'est pas à l'écoute de cela, eh bien, la personne, il va lui manquer des parties. Après, si elle est venue te voir, et si elle est venue voir cette personne-là à ce moment-là, c'est que c'était juste pour elle. Parce que c'était peut-être quelque chose qui était plus mental, c'était moins dans le ressenti, mais c'était ce qui lui correspondait à ce moment-là. Donc après, si elle en ressort et qu'il lui manque quelque chose, c'est à la consultante et au consultant de se dire, tiens, mais finalement, oui, j'ai eu des informations, mais il manque quelque chose. Pour moi, c'est toujours un aller-retour. Parce que même nous, il y a des jours où on y est moins, et on va faire quand même une lecture, et on sera un peu à côté de la plaque. Voilà.
Et y a-t-il, selon toi, un âge propice pour découvrir le tarot et quels sont les conseils que tu aimerais donner aux personnes désireuses de se consacrer à la tarologie afin d'en faire une profession, justement ce qu'on vient de dire, s'il y en a que l'on puisse considérer la tarologie en tant que telle, est-ce que ça existe, la profession des tarologues ?
Alors, j'ai envie de te dire, c'est une profession de foi, parce que ça va avec ta propre foi. Je sais que je pose là des mots qui sont très sensibles aussi, mais en même temps, on est à Radio Panique, donc on est aussi là pour la panique. Hein. C'est aussi cela, le vivant. Et c'est jamais tranquille. On a un petit virus qui arrive et ça nous fout tout en l'air. Eh ben, c'est ça, le vivant. Donc, cette profession, oui, tu peux en faire une profession, puisque tu deviens professionnel. Et en même temps, tout le temps apprenant. Tu apprendras toujours. Une fois que tu rentres dans le tarot, il est partout, tu vas le voir partout, tu vas le ressentir et tu vas comprendre. Moi, combien de fois j'ai eu en lecture quelqu'un qui vient me parler de quelque chose dans une carte et paf, je découvre une dimension de la carte que je n'avais pas encore reconnue, que je n'avais pas encore croisée. Ou dans la rue, ou en lisant quelque chose. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que ça ne s'arrête pas. Donc l'âge, tu pourrais même le donner à des enfants. Les enfants donnent un tarot à des enfants, ils vont te dire des choses parce qu'ils ne sont pas dans le mental. Ils y ressentent. Et donc, je t'assure que les meilleurs tarologues, ce sont les enfants. Ne lui apprends rien, mets-lui un tarot dans les mains. Pose-lui une question avec des mots qu'un enfant peut comprendre. Il va te dire des choses qui seront justes. Juste, moi, je l'ai expérimenté plus d'une fois. Les enfants sont les meilleurs tarologues. Donc, tu peux donner un tarot à un enfant. Et après, par rapport à la disposition, ça revient à ce que je te disais il y a quelques instants. De toute façon, bien sûr que c'est à chacun de se dire, est-ce que c'est commencer en allant prendre un cours ? Il y a des gens qui font des cours magnifiques ici à Bruxelles, en Belgique. Et puis tu peux aller prendre La Voix du Tarot de Jodorowsky. Tu as Marianne Costa qui a écrit Le Tarot pas à pas. Voilà, je trouve que les deux se complètent bien. Donc après, à voir avec quoi on a envie de commencer.
Tu me dis que tu as découvert le Jodorowsky. Et qu'est-ce que ça fait qui a déclenché cette passion en lisant Jodorowsky, justement ?
C'est une très belle question. Ça me touche beaucoup que tu me poses cette question, parce que c'est vrai que je lisais une autobiographie qui était fort reliée au monde artistique, puisque Jodorowsky, hein, c'est un artiste. Et puis, quand il a commencé à raconter... Alors, il l'aurait lié à son enfance, parce que lui, le tarot arrive dans son enfance. Et puis, comment il l'a amené dans le jeu ? Et donc, dans le jeu, on peut l'entendre au double sens, J-E-U et J-E. Et donc, dans cette dimension humaine qui était, OK, mais c'est ici et maintenant. Et comment est-ce que je déploie la carte pour voir vers où j'ai envie d'aller? Et donc, quelles seraient les choses justes, mais en l'amenant dans une simplicité qui n'était effectivement plus dans une lecture de l'avenir, mais une lecture d'ici et maintenant, au présent. Puisqu'au final, on n'a que le présent. Et le présent, c'est le plus beau des cadeaux que la vie nous fait. Et là, ça, quand je lisais ces histoires et de ce qu'ils avaient fait avec le tarot et les actes, enfin voilà, et le chamanisme qui m'inspirait déjà beaucoup, j'ai découvert cette dimension du sacré et de la foi que je ne connaissais pas, puisque moi j'ai grandi en France et que pour moi, dans mon chemin de vie en tout cas, j'ai pas été connecté à de la foi. J'étais connecté à de la passion, mais pas à cette dimension-là. Et là, avec ça, il y a cette dimension qui s'ouvrait en moi qui était « mais la vie n'est pas effectivement que le concret de ce que tu as envie de faire, mais il y a aussi toute cette dimension de l'invisible, donc ce que l'on voit dans l'un, qui est là et qui est présente. » Et donc, je ne le savais pas, mais je l'ai réalisé plus tard que le théâtre m'avait préparé sans me le dire au tarot.
Je comprends. Je viens de théâtre. Alors, Mathieu, explique-nous, pour donner un exemple concret à nos auditeurs, comment tu préfères procéder face au questionnement d'une personne venue te voir? Plus spécifiquement, quelle est cette méthode que tu utilises du moment présent, de la sagesse, de la vie ici et maintenant? Et selon toi et ton expérience, comment tu vois le besoin d'une personne qui s'est recommande à la tarologie comme réponse à ces questions existentielles?
Alors, les questions existentielles, alors là, tu pars déjà sur un point très, très haut. En fait, tu es déjà dans l'existentiel, mais il y a aussi le matériel. Il y a aussi le créatif, le sexuel. Oui. Il y a l'intellectuel et puis il y a le domaine du cœur. Tout cela est dans le tarot. Et donc, quel que soit, justement, et c'est pour ça que je me permets de redonner ce cadre-là, parce que tout va dépendre de la personne. La demande. Et donc, le protocole va être, pour moi, déjà d'écouter ce qu'elle dit. Parce que c'est la première carte de tarot qui se présente. Elle est là. Elle ne le sait pas, mais elle est là déjà. Et donc, cette première chose, quels vont être les mots qu'elle emploie? Quelle est l'expression qui émane d'elle? Son attitude, sa façon dont elle est vêtue? Est-ce qu'elle est à l'aise? Est-ce qu'elle est mal à l'aise? Quel est son désir sur le moment? Puis à partir de là, on va entrer en dialogue. Et je vais voir ce qui peut l'accompagner le mieux vers le chemin vers elle-même et essayer du mieux que je le peux de trouver les mots qui vont lui parler. On va parfois reformuler la question puisque ce n'est pas donc un tarot prédictif. Donc on va essayer de trouver les mots qui vont convenir à la personne pour que la question puisse répondre à sa demande. Parce que des fois, tu viens avec une première demande. Et puis cette demande, ça pourrait être, tiens, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, un amoureux, une amoureuse? Voilà, pour prendre des questions les plus connues par rapport au tarot. Eh bien, cette question-là, ça sera du prédictif, justement. Par contre, derrière, c'est plutôt une peur qui s'exprime. C'est, est-ce que je vais rester seul toute ma vie? Et donc, on va déplier ensemble, pendant quelques minutes, avant de démarrer, qu'est-ce qu'il y a là derrière? Pour que la question soit vraiment ciblée et qu'elle reparte avec des outils qu'elle prendra ou pas, c'est toujours son choix. C'est elle qui a en main les choses. Moi, je suis là pour transmettre, je suis la voix du tarot. Je suis son interprète. Les cartes, elles ne parlent pas, pas directement, pas avec nos mots. Donc, je suis là pour pouvoir faire l'intercesseur, c'est bien ça ce qu'on appelle un médium, entre les cartes et la personne, pour qu'elle puisse recevoir son message. Et à partir de là, elle va pouvoir se dire « Ok, tiens, il y a ça qui se présente », parce que l'idée, c'est de repartir quand même avec quelque chose de concret. C'est pas tout le temps le cas. Des fois, on est juste, puis des fois, il y a peut-être des choses pour pouvoir se libérer, parce que des fois, il faut libérer des mémoires, des pensées, pour pouvoir avancer.
Mais Mathieu, il faut quand même avoir une grande connaissance de l'humain pour cerner justement cette peur de cette personne ou ce doute, parce que la carte va te donner les outils nécessaires pour comprendre cette personne.
Alors oui, comme tu dis, il y a une en prérequis, il y a une empathie. Il y a la question de l'empathie, c'est-à-dire que, et c'est pour ça qu'on est dans la question de la foi, c'est je laisse l'ego de côté, je me laisse traverser. Si je n'arrive pas à me laisser traverser, et c'est pour ça que ça devient compliqué de le faire uniquement professionnellement à temps plein, parce qu'il y a des fois on n'y est pas, parce que des fois c'est pas le jour, et que des fois il vaut mieux dire pas, je suis désolé, on va reporter à une autre fois, parce que non, je vais pas être apte à pouvoir vous accompagner comme ce serait juste que je vous accompagne. Donc c'est aussi apprendre à être à l'écoute de soi-même. C'est pour ça que je parlais de l'humilité. La notion d'humilité, elle est primordiale. C'est rentrer le plus grand maître et le plus grand apprenant. Et le tarot est un grand maître. Donc, à partir de ce moment-là, si tu veux, ça, d'ailleurs, merci le tarot, il me donne de l'émotion comme ça. C'est quand tu es avec lui, eh bien, ok, ben, il faut aussi savoir écouter qu'il y a des moments où on n'y est pas, parce qu'on est en train de vivre quelque chose qui est très fort et qu'on n'a pas l'espace. Quand je t'en parlais au début de l'interview, on n'a pas l'espace nécessaire, parce qu'on a aussi des choses, nous, à vivre en tant qu'humains. Et donc cette empathie, ben, du coup, si toi, t'es dans quelque chose que t'as reçu, auquel tu t'attendais pas, et que t'as plus l'espace, ben, tu peux plus être dans cette empathie face à l'autre. Et donc, pouvoir l'entendre et le recevoir, pour pouvoir transmettre les choses.
Et pourquoi exactement le tarot de Marseille ?
Alors, le tarot de Marseille, c'est ça qui m'amuse, c'est que déjà, historiquement, je crois que tu en as certainement parlé dans les émissions précédentes, c'est juste long, c'est son nom, mais tout simplement parce que c'est là qu'était édité, il y avait le plus grand rassemblement de maîtres cartiers. Mais les origines, on n'en sait rien. Après, il s'est tellement enrichi de tout ce qu'il a vécu, Visconti, etc., etc., que pour moi, quand Jodorowsky a amené la version du tarot à la fin des années 90, qui est celle avec laquelle j'ai commencé, visuellement déjà, c'était quelque chose qui me parlait quand j'ai vu le sien. Les autres, tu as le Grimaud notamment, qui est l'un des plus édités, c'était des couleurs que justement, qui plutôt intérieurement, ça me rétractait. J'avais un rejet de ce tarot-là. Il y avait quelque chose de morbide. Et quand j'ai vu le tarot sorti par Jodorowsky, il y avait des couleurs, il y avait de la vie, il y avait du vivant. Et donc, c'est lui qui m'a guidé. Et puis, plus je le découvre, plus le fait que cette œuvre-là soit l'œuvre qui remonte à on ne sait pas quand, certains les font remonter aux Égyptiens, peut-être à beaucoup plus loin. Eh bien, je me dis que c'est une telle somme qui s'est enrichi avec les années, où les arcanes effectivement ont bougé, ont retrouvé une nouvelle place, une nouvelle lecture, que peut-être qu'il y aura de nouveau Tarot de Marseille par la suite. Eh bien, ça me plaît, ce côté où on sort aussi de l'ego. Parce que le Crowley, c'est bien le Crowley, c'est bien Monsieur Crowley. Grimaud, c'est Grimaud. Et Jodorowsky aussi, il a quand même mis son nom dessus. Même celui-là, il a mis son nom dessus. Donc, tout est à prendre toujours pour moi avec « Ok, je le prends à un moment donné, et puis où est-ce que moi je me trouve là-dedans ? Où est-ce que j'accueille cet outil avec ce qu'il est, avec sa perfection et avec sa dose d'imperfection ? Mais l'imperfection, c'est toujours la perfection dans l'un. Donc on y revient toujours pour moi, on n'est jamais très loin. Mais comme c'est notre miroir, c'est qu'est-ce que moi je vais voir qui m'embête. Et si ça m'embête, ben c'est une part de moi qui n'est pas en paix. Et donc, à partir du moment où je vais faire la paix, ben je pourrais prendre n'importe quel tarot. Et je ferai avec ce qu'il y a. Mais peut-être qu'il y a des choses que je déblairai. Parce que certains tarots ont été pas mal axés au niveau de la lecture de la carte. Notamment, une des plus connues, c'est la carte de la tour. Et qui est effectivement, il y a un certain nombre, c'est surtout au 19e siècle, qu'il y a eu pas mal de dessins qui ont été refaits. Et notamment avec Oswald Worth. Et là, on va jusqu'à carrément faire tomber une pierre, enfin une brique sur la tête d'un des deux protagonistes. Et je trouve que du coup, ça ferme énormément. Alors que le tarot de Marseille, il laisse cette place à l'autre. Il laisse l'autre venir à lui. Il n'impose pas une image. Et je trouve que plus on va pouvoir ouvrir, plus on va pouvoir découvrir, eh bien, quels sont les arcanes personnels de l'être qui est en face de nous, pour pouvoir le connecter avec les cartes qu'il a tirées. Et là, lui, se sentira juste, parce qu'il sera reçu. On ne lui imposera pas de dire, t'as tiré l'arcane de la tour, eh bien, oh, tu vas voir, là, la maison de Dieu, ça va être le pire pour toi. Ça a un sens, malheureusement, que tu fermes. Et tu parlais de l'apprentissage, ben voilà, de la sagesse, c'est comme si tu virais la sagesse de ce que vient nous raconter le tarot.
Et pour être bien dans le concret, peux-tu nous indiquer, si la demande n'est pas trop indiscrète, tes émoluments ou plus généralement une grille de tarifs raisonnables à pratiquer avec le tarot?
Alors, ça, j'ai envie de te dire, tout dépend de ta pratique, en fait. Tout dépend de ta pratique, de là où tu en es, de ton rapport à l'argent. Parce que là, tu touches effectivement ce concret-là, qui est le rapport à l'argent. Et très souvent, d'ailleurs, en fait, quand on est dans l'artistique, puisque là, on parle d'un art sacré, mais si on est dans l'artistique, on est dans cet état d'esprit que parce que c'est de l'art, ça ne vaut rien. Hein? S'il y a des artistes qui nous écoutent, pensez-y. Qu'est-ce que ça vaut, votre art? sans avoir peur du monde capitaliste, qui est le monde de la matière, qui vient nous enseigner lui aussi des choses. Quelle est ma valeur? Combien ça vaut ce que je fais? Et peut-être que ça va en repousser, et peut-être qu'il y a des gens qui vont te dire non. Moi, maintenant, la grille, puisqu'on parle de concret, je ne sais pas si ça sera toujours ça, mais je demande 144 euros pour une lecture. Et on passe une heure ensemble, ce qui regroupe plein de choses. Il y a plein de gens qui m'ont dit que c'était trop pour eux, mais peut-être que ça ne leur correspond pas. Et il y a d'autres gens qui demandent 30 euros, qui demandent 50 euros pour leur lecture, d'une heure aussi, ou plus. Voilà, chacun va faire en fonction de ce qu'il est. Si tu as envie de t'investir, parce que c'est aussi demander cette valeur-là, ça demande aussi un investissement, puisque c'est bien investir. Mais là, c'est en toi que tu investis, c'est de l'immatériel. Et pourtant, la matière, on va la laisser ici en partant. Donc, comment est-ce que tu investis dans l'immatériel? Est-ce que tu te dis, je me sens à l'aise avec cette personne-là, et ce dont elle parle et la façon dont elle en parle, ça me parle. Alors oui, je vais y mettre ce prix et je suis prêt à mettre ce prix. Et dans ce cas-là, si c'est un grand oui, alors ça va faire sens. Et cet investissement, ici pour moi 144 euros, elle fera sens et elle en récoltera beaucoup plus. Si c'est j'y vais mais comme ça, forcément tu te fermes les choses. Et donc l'ouverture de ton cœur ne va recevoir qu'une partie du message qui va être là à ce moment-là. Peut-être que ce sera beaucoup plus juste et beaucoup plus parlant d'aller voir quelqu'un qui demande 30 euros. C'est toujours un jeu qui se fait à deux. Il y a la personne qui propose, et puis il y a celle qui accepte ou qui refuse. Ça, c'est la loi du jeu.
En te remerciant infiniment de cet entretien, Mathieu, qui, je suis persuadée, aura fortement intéressé nos auditeurs, peux-tu nous éclairer en quelques mots l'arcane du jour, qui aujourd'hui, c'est l'arcane de numéro 4, l'empereur.
Un grand merci à toi, Anna Maria, pour l'invitation. C'est vraiment... je ne m'y attendais pas. Donc ça arrive à un moment, comme je te disais, où moi je quitte Bruxelles, en tout cas en tant qu'habitant. Parce qu'on y reviendra de cœur, ça c'est sûr et certain. Et justement, l'arcane numéro 4, c'est intéressant parce que c'est la base. C'est où est-ce que... sur quel domaine je règne. C'est l'empereur. L'empereur, lui, c'est le 4, on est dans le carré. Donc vraiment, là, du concret. Lui, il te dit, je suis un chef d'entreprise, j'ai acquis telle chose, j'ai investi, j'ai ma maison, par exemple, je viens d'acheter une maison, ou je viens de louer une maison, si on n'est pas encore propriétaire, ou qu'on ne le souhaite pas. Mais qu'est-ce que j'ai concrètement? Quels sont les moyens que j'ai? Donc ça, il va venir poser ces questions-là. J'ai un background. Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Qu'est-ce qui fait que je maîtrise telle ou telle chose? Et donc, quel est le cadre que je peux me donner dans la vie pour me réaliser en tant que chef d'entreprise, pour me réaliser en tant qu'employé, pour me réaliser dans la matière, pour avoir cette possibilité de dire, ok, ou pour être un enseignant, par exemple, puisque c'est la quatrième carte, mais c'est la cinquième émission. Donc, il y a le pape qui est là derrière, qui lui va venir communiquer. Je n'en parlerai pas, tu en parleras la semaine d'après. Mais comme les deux sont connectés aujourd'hui, tu as vraiment ce domaine-là qui dit « je vais aller communiquer les choses ». Mais d'abord, j'assure ma base. Je regarde, tu vois, l'empereur, lui, il regarde vers le passé. On dit qu'il regarde vers le passé quand on est dans la lecture à l'européenne. Et donc, il regarde les terres qu'il a acquises. Et donc, ces terres-là, voilà, c'est quelle est la formation que j'ai faite? Qu'est-ce que j'ai vécu dans la vie? Et du coup, je trouve mon masculin. Je viens travailler avec ce masculin concret. Et ça peut être la question, justement, d'un homme qui peut se demander ou qui peut être dans la question de la paternité. Voilà, qu'est-ce que je lègue? Qu'est-ce que je vais léguer? Si c'est quelqu'un qui est plutôt âgé aussi. Quel est ce domaine-là dans la matière que je vais amener? Et est-ce que c'est le moment d'être père, par exemple? Ou, je vais être père... Eh bien, si cette carte-là arrive, ça vient te dire « Mais oui, tu as déjà tout en toi. » Et on a la cloche qui sonne juste à ce moment-là. Tu vois, c'est divin. C'est divin.
Eh bien, merci beaucoup. Bon voyage et bonne continuation dans cet apprentissage immense qui est le tarot. Merci pour tes mots, c'était très beau. Ça me touche énormément de recevoir dans notre émission une personne avec tant de connaissances comme toi. Je suis très heureuse de cette émission. Et donc, voilà, j'espère que dans les auspices de l'Empereur, on dit au revoir à nos auditeurs et à la prochaine.